c'est pas toujours très moral non plus, ça va avec en fait.
Jean-Pierre, que nous sommes avec vous dans un univers un petit peu différent. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui est votre matière d'origine, amène à la fin de la violence? Est-ce que c'est un moyen qui pourrait être à la fin de la violence, ou est-ce que justement vous nous montrez dans vos romans que quelle que soit la nature, plutôt fantaisie, plutôt sans technique, sans technologie, ou une nature très futuriste ou technologique comme celle qu'on peut trouver dans vos romans, est-ce que vous aussi vous êtes dans la violence malgré la technologie?
Je ne suis pas dans la violence malgré la technologie, je suis dans la violence de la technologie. Qui serait causée, amenée par ce qu'on appelle le progrès technologique, nos iPhones, nos intelligences artificielles, nos robots, nos découvertes en matière de biologie. Tout ça peut conduire, et dans les romans, conduit inéluctablement à des abominations. Mais je ne cherche pas l'abomination pour l'abomination. Il se trouve que ça conduit là. D'ailleurs, le lecteur lui-même ne découvre que c'est une histoire abominable, que tout à la fin, généralement. Le plus caractéristique, c'est l'Eternity Express, où le lecteur a l'impression d'un voyage de Veillard à bord d'un train vers une destination idyllique. Et ne se rend compte que dans les trois dernières pages où ces gens-là aboutissent et quelle société les a envoyés là. Et le lecteur est amené à faire
une relecture,
une rétropropagation de cette abomination qu'il vient de découvrir, et à relire et à revoir qu'à chaque étape, l'abomination était déjà là en germe et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Un peu comme nous avons laissé venir la Shoah sans nous en être rendu compte, et en fait, je me suis rendu moi-même compte au bout de plusieurs romans que j'ai, que mon obsession à moi, c'était la Shoah, en fait, l'Holocauste. Ma famille a eu à en souffrir, je suis d'apparence beaucoup plus asiatique qu'alsacienne, mais j'ai. Je suis alsacien, d'une famille juive alsacienne par ma mère, et cette famille a eu beaucoup à payer son tribut à l'abomination du siècle dernier. Et j'ai grandi dans cette contemplation, et sans m'en rendre compte, quand j'ai commencé à écrire, j'ai réécrit des choix et des choix à venir, avec toujours l'idée qu'on ne les verra pas venir.
D'accord, c'est pas très réjouissant. Quant à vous, vous, l'univers qui entoure vos romans et qui est celui où se construit vos romans est un univers particulièrement ardu pour tous ceux qui le peuplent. Est-ce que ça correspond à votre. Est-ce qu'il était nécessaire de passer par cette description d'une société au fond de la violence et au fond de et d'utiliser. Le passage par la vie de la société pour aller vers l'héroïsme.
I started this book deliberately in a very dark place, and I tried to with the first trilogy, I tried to reflect that even in the titles. You have the way of shadows. You have this progression of darkness to light. The way of shadows, the edge of shadows, which is sort of a decision point. And beyond the shadows, and the violence in this world is probably predicated upon the setting. It's when this world. I think that the violence drives some characters to what I call a confrontation with extremity, where they have to decide what they truly believe and who they truly are. And so that kind of gets to the core of the character. So those extreme situations show them their colors, and sometimes it's better than they imagined, and sometimes it's much, much worse.
Alors effectivement, dans ce monde, quelque part, la violence permet de révéler les personnages parce qu'ils sont confrontés à des situations tellement extrêmes qu'ils doivent décider ce en quoi ils croient et qui ils sont, et montrer leur vraie couleur. Alors des fois, ils sont en fait meilleurs que ce qu'ils ne pensent, et parfois, ils sont bien, bien pires.
Un petit extrait qui est un moment clé justement pour un des personnages principaux et qui explique comment on peut, alors qu'on est déjà au fond de la violence, basculer vers encore plus. Tu avais raison, Bordouillaz, entre ses larmes, il levait les yeux. Le rat était debout devant lui et la lune projetait son ombre sur le garçon. Je savais ce dont tu avais envie et j'en avais envie moi aussi, mais là, je ne pouvais pas. Mais je suis prêt à le faire maintenant. Les yeux du rat étaient durs et impassibles. Azot se leva avec lenteur, se donnant aux hanches de l'adolescent. Faisons-le ici, toute la ville nous entendra. Il faut que tout le monde nous entende. Il tremblait de tout son corps et ne parvenait pas à le cacher. Des frissons de dégoût le traversaient, comme des décharges électriques. Mais il affichait toujours un visage plein d'espoir et faisait croire que ces tremblements n'étaient que le symptôme d'une hésitation naïve. Je ne peux pas, je ne peux pas. Laisse-le te tuer. Tiens, tout n'est pas ça. S'il réfléchissait, si son esprit s'attardait sur quoi que ce soit pendant une fraction de seconde, il était perdu. Azot tendit une main tremblante vers la joue du rat, se leva, et puis se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Non, s'exclama le rat en le giflant. On va faire ça à ma manière. Voilà, nous avons Azot qui est le personnage principal qui vit dans une guilde d'enfants voleurs, assassins, dans une cité complètement corrompue. Et ce moment est le moment de bascule où il se décide à est-ce que je reste du côté des victimes ou est-ce que je fais la chose que j'ai toujours refusé de faire ou est-ce que je choisis encore une troisième alternative qui est celle de la violence ultime qui lui a été demandée pour devenir un élève assassin. C'est un choix qui est, on pourrait croire, manichéen, mais non, hein, il y a vraiment plusieurs solutions pour décider de se laisser mourir. Comment est-ce qu'on emmène les gens vers plus de lumière quand on est parti de situations aussi sombres?
Well, I answer that easily in a mere 2,100 pages.
Oui, donc bah, c'est facile, hein, il n'y a qu'à lire les 2,100 pages. Alors,
that is indeed perhaps for me the darkest moment of the entire trilogy, and it comes pretty early. It's sort of it's the escape hatch. If this is too much for you, get out now.
Et c'est vraiment le moment le plus sombre de la trilogie, et c'est tout au début. Donc si c'est trop dur pour vous, vaut mieux arrêter là.
And for me, I guess it. As you said, it brought forth that choice to him. Are you going to be a victim? Are you going to die? Or are you going to try to find a third path? And he is the young man, or the boy, and later the man, who finds a third path. And in this rough situation that he's in, that third path involves him becoming an assassin. So his would-be master says, I don't think you can do it. Not very many people can kill. You have to show me you're willing to kill by facing this bully that you're terrified of. And he chooses to seduce him to his death. That was really long. I really put my translator since you weren't here.
Donc, oui, vraiment, j'ai choisi ce moment où ce garçon doit choisir entre être une victime, mourir ou trouver une troisième voie. Ce garçon qui va devenir un homme choisit cette troisième voie et dans la situation où il se trouve, c'est celle de devenir un assassin. En fait, on peut l'assassiner en commençant par le séduire pour pouvoir le tuer.
Ce qui est chose très intéressante dans ces récits, plein de luminosité et plein d'espoir et de fleurs bleues et de petits bonnets, est-ce que je trouve ça intéressant que chez Brett Weeks, chez Gabriel Katz, chez Solène Pompex, tous les trois dans des univers bien différents, vous abordez le thème de la reine. Et ça me semble assez intéressant de se demander pourquoi, de façon très symbolique, chez Brett Weeks, puisque c'est plutôt un mouroir horrible qu'une reine, qu'est-ce que ce lieu de suprématie de la violence permet de montrer pour vous, Solène?
Pour moi, la reine, c'est vraiment un endroit où on est uniquement face à soi-même, et le but, c'est juste de survivre. Donc soit on fait des choix qui sont qui paraissent totalement contre la morale, et on peut éventuellement survivre si on a des cordyceps. Soit on ne va pas oser, on va pas vouloir faire du mal, et on va vite être en danger, il va falloir s'adapter. C'est vraiment là qu'on peut faire ressortir les pires ou les meilleurs côtés d'un humain, parce qu'on est face à des choix qu'il faut faire rapidement par instinct, et vraiment c'est des choix qu'on est obligé de faire, des choix dont on n'a pas le choix en fait, et le but, c'est vraiment de survivre, quel que soit le prix à payer pour ça.
La reine, en fait, c'est une esthétisation de la violence. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on met la violence en scène comme un théâtre, et on y trouve une sorte de plaisir pervers. Alors autant le gladiateur qui est là, qui montre sa force, autant le public qui assiste et qui vient voir des gens saigner, autant quelque part le lecteur qui lit aussi et qui se dit « Ah, quand même, il veut en foutre une, c'est merveilleux. » Et bon, et l'auteur par essence. Le truc, dans mon dernier bouquin, par exemple, Eternia, le héros est un gladiateur qui est en fin de carrière, il y a 40 ans, et il fait son dernier combat en tout dernier chapitre du livre. Et pour le coup, il est à fond dans l'esthétique de la violence, justement, parce qu'on l'attend tournant, il a 40 ans, est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il va gagner, finalement il gagne, il y trouve un plaisir extraordinaire, et toute une fierté. Sauf qu'au bout de ça, il se retrouve confronté à quelque chose de plus humain, c'est-à-dire maintenant j'ai deux gamins, qu'est-ce que j'en fais? Donc est-ce que je les élève dans un monde où justement on saigne en arène, ou est-ce que je les amène dans un endroit civilisé? Finalement, c'est là que cette espèce d'esthétique un peu sanguinolente, tout d'un coup, il paraît beaucoup moins attractive parce que ces gosses vont être élevés dedans. C'est le moment où il commence finalement à mettre cette petite once de morale qu'il n'a pas eu pendant toute sa vie et à repartir de ça. Une sorte de pas en arrière, de se dire voilà, après tout, non. Et donc il prend ses gamins sous le bras et il part en disant je vais aller les élever dans un endroit où ils seront. Où ce sera civilisé. Bon, bien entendu, ça ne se passe pas exactement comme ça, sinon il n'y aurait pas de livre. Mais voilà.
Et pour vous, Alex?
I think they were going to fascinate us all. Going back to the earliest Catholic saints who said, it was vile and I loved it. There's something about the violence on display that's really intriguing, and at the same time, you realize it's really gross, and that we like to watch or read about it reflects on us ultimately. So it's a curious thing to use to reflect on human nature.
Effectivement, moi je pense que la reine fascine. Quelque part, on apprécie cette violence, le fait de montrer la violence, ça nous intrigue et en même temps on trouve ça absolument dégoûtant. Mais quelque part, on aime regarder parce que ça nous fait réfléchir aussi à la nature humaine.
Et est-ce qu'on peut espérer que par la technologie ou par l'édition, même si vous avez dit un petit peu le contraire tout à l'heure, est-ce qu'on peut espérer que l'humain se débarrasse de cet appétit pour la violence dont vient de parler Brett Weeks? Parce que donc, vous avez bien compris que s'ils mettaient de la violence dans leur roman, c'est parce que vous aimez ça. Hein, c'est parce que eux, ils sont.
technologie, c'est le thème de, du successeur de Pierre, de mon roman Le successeur de Pierre, et de mon essai totalement inhumain. La seule chance, je dirais, pour que l'humanité telle que l'humaniste l'idéalise, se réalise un jour, serait que l'intelligence se débarrassa de son véhicule humain, de son véhicule organique, c'est-à-dire de ce noyau reptilien qui est en qui commande tous nos comportements. Et donc, s'il y a un espoir avec la technologie, c'est qu'elle nous débarrasse de l'homme et de ce qu'il y a de reptilien en l'homme et qu'elle réalise sur un autre support. Forcément, ça sera du silicium au départ, mais sur un autre support, l'idéal d'humanité et des humanistes. C'est le paradoxe, c'est que aussi longtemps que l'homme est prisonnier de son support, de son véhicule organique, dont le cœur ardent est ce cerveau reptilien, eh bien, il n'a aucune chance de devenir homme. Il a sa seule chance de devenir homme. C'est là le paradoxe, c'est de devenir machine.
Et donc, fini les glaces, fini les gâteaux au chocolat, etc. Bon, ok, super choix. Bien, alors, avant d'arriver à ce côté presque stargateien de l'être, de lumière ou de machine, soit politique, par des choix de société, de dépasser la violence tout en gardant nos corps, puisque pour l'instant on ne sait pas faire mieux que ça. Est-ce que dans Atrocity, les personnages réussissent à trouver un moyen de dépasser la violence, parce que elle est tellement inhérente à cette cité particulière et à ce futur peu glorieux, qu'il n'y a pas de moyen.
Certains ont trouvé le moyen. Et il y en a même qui ont réussi, ils se sont retirés de la société, ils ont réussi à faire des sociétés totalement pacifiques et ils se font démerder par les autres. C'est-à-dire que, ouais, c'est possible, ça doit être possible. L'humain, je ne pense pas qu'il soit naturellement mauvais, donc il doit y avoir moyen, au bout d'un moment, de réussir à sortir de cette violence et de tout ça, mais encore faudrait-il le vouloir et encore faudrait-il apprendre que le pouvoir n'est pas forcément essentiel dans la vie et surtout ne passe pas obligatoirement par la violence. Et malheureusement, tant que ça s'est ancré en nous, parce qu'on est des pures animaux et que le but d'un animal c'est reproduire, régner, étendre sa tribu. Le mâle dominant va tuer l'autre mâle, etc. Donc on n'arrive pas à le dominant, les chénigans, c'est pas la
oui,
même
totalement,
chose.
Oui,
mais c'est le schéma classique. Et tant qu'on n'arrivera pas à sortir de ça, je pense que l'humanité est un peu condamnée à cette spirale de noirceur et de violence. Ouais, il faudra un peu de sagesse, quoi.
Chez vous, il y a une possibilité sans vouloir. Je déteste spoiler, donc je ne vais pas vous dire grand chose sur la suite, mais il y a une possibilité par un sentiment très humain et qu'on peut être tous à même d'éprouver. Il y a une possibilité de se dépasser et d'aller vers au-delà de la violence dans laquelle on a été élevé, par une certaine forme d'abnégation qui passe par l'amour. Est-ce que vous y croyez pour dans une ambiance plus vaste, sur un point de vue social et pas seulement dans une histoire entre deux ou trois personnes.
Big question. I don't think that love can work socially the way we'd sort of like to. Most of us love ourselves, we love our families, and then we love maybe the people town, and when our football team is playing the town across the way. But most of us don't love the human race that way.
Alors, c'est une grande question. Alors, je pense pas que l'amour puisse nous aider d'un point de vue social. Je pense que la plupart des gens s'aiment eux-mêmes. Ils aiment leur famille, ils aiment les gens de, disons, de leur village. Si l'équipe de football du village affronte l'équipe de football du village d'à côté, mais on n'aime pas la race humaine de cette façon-là.
Ultimately, I think it comes into realizing that violence is a part of the human experience, and partitioning it into the correct, into its correct realm, that is, in modern society, we give the state the right to violence. The state can kidnap you. The state can, you know, put you in prison. That's not for us to do. We don't do that ourselves. You're allowed to defend yourself, but you don't. So violence is still part of the human animal, but it is not the first part. It is not allowing the alpha male to do whatever he wants. When that's functioning properly, then that allows love to flourish, and individually that allows love to come through.
Effectivement, je pense qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence fait partie de l'être humain. Mais il faut arriver à la diviser en certaines catégories, c'est-à-dire que, par exemple, dans le monde actuel, l'État a le droit de violence, il a le droit de kidnapper, il a le droit de mettre en prison. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on a le droit de se défendre, mais on n'a pas le droit d'aller attaquer. Et du coup, je pense que quand on accepte le fait que la violence fait partie de l'animal qu'est l'homme, dès l'instant où c'est pas justement le mâle alpha qui va se permettre de faire absolument ce qu'il veut, si c'est encadré, dans ce cas-là, l'amour peut se développer et peut aider à améliorer les choses.
Mais alors pourquoi ne pas passer directement par des romans, je dirais, plus optimistes ou moins empris de violence? Qu'est-ce qui permet, en passant par la violence, de dénoncer des choses? Parce que dans l'Eternia, Gabriel, il y a des choses qui sont un tout petit peu dénoncées.
Je parle de religion. La religion aujourd'hui, forcément, c'est un sujet un petit peu. Oui, touché, voilà, c'est le terme. Je ne pense pas que j'essaie de dénoncer des choses, franchement. Je pense que c'est un peu un miroir de ce qu'on peut avoir aujourd'hui qui se retrouve un petit peu dans mes bouquins, parce que finalement, c'est presque un clin d'œil au truc atroce qui se passe et dont on n'a pas très envie de parler, parce qu'on en a plein les yeux aux informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète un livre de fantasy, on lit la même chose. Mais bon, disons que c'est tourné de façon ludique. Mais il faut être réaliste. Les gens s'arrêtent sur les autoroutes pour regarder les accidents. C'est un truc totalement atroce. Les gens veulent des films où on se tire dessus. Les gens veulent des histoires qui font peur. Les gens veulent des psychopathes. Voilà, le type, il a découpé sa voisine. C'est atroce. Il l'a mise dans le frigo. C'est ce qui marche. Alors, peut-être si vous voulez. Et du coup... Oui, c'est un peu dénommé. On donne aux gens ce qu'ils veulent, en fait. On donne aux gens ce qu'ils veulent. C'est le grand principe de TF1. Donc toujours est-il que la violence en question, c'est une vraie demande qui est inhérente à l'homme, parce que finalement la violence, on ne l'éradiquera pas. On posait la question tout à l'heure, ou si on l'éradique, ce sera dans un million d'années, on sera tous des jolis robots, je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, si la question se pose, c'est carrément non. Et en termes de fiction, en termes de fantasy particulièrement, la violence, on ne peut carrément pas s'en séparer, parce qu'elle est... C'est l'échelle de valeur, la violence. C'est-à-dire que plus on est puissant, plus on est physiquement fort, plus on est techniquement fort, plus on est classe. Finalement, quelqu'un qui regarde Star Wars aujourd'hui aura une fascination totale pour Dark Vador et pour personne d'autre.
Yann Solo, pardon.
Yann Solo, c'est parce qu'il est pas mal. Et encore, il est violent. Il a un côté un petit peu comme ça, rebelle. Il frappe tout le monde.
Rebelle.
Peut ouvrir le feu sur des gens à l'occasion, etc. Mais franchement, la fascination, c'est la puissance. First, exactly.
Bon, alors c'est la fameuse blague sur est-ce que Yann Solo est-il en premier? Non.
Ouais, ça a été changé, le pari.
Retournez voir Star Wars aussi, si vous voulez. Alors donc, puisqu'on ne peut pas sortir de la violence, est-ce qu'on a
passer au moins 6 mois sous le seuil de pauvreté au cours des 3 années qui ont précédé. C'est-à-dire qu'il y a en gros 1/3 de la population française, 1/3, qui vit dans cette espèce de terrain vague, là, ce qu'on appelait dans le temps les marches, hein, c'est-à-dire loin de la capitale, là, dans des endroits où la civilisation n'arrive pas, qui survivent, qui de temps en temps, parce qu'ils ont trouvé un petit boulot, passent un peu au-dessus, et puis 3 mois plus tard, parce qu'ils le perdent, ou parce que le gamin tombe malade, etc., plongent de nouveau en dessous. Nous avons donc 16 plus 1, 20 millions sur 60 millions, bordel, de Français qui vivent comme ça. C'est ça la violence suprême. C'est pas celle des gamins qui vont casser une vitrine pour faire un casse, ou même qui vont. Et je dirais, c'est même pas celle, excusez-moi de le dire, je sais que c'est un peu provocateur, les Kouachis nous ont imposé un grand spectacle, parce que ce sont des violences extrêmement limitées et qui ne concernent qu'une infime partie de la population, mais qu'on met en épingle pour masquer la violence suprême, qui est la violence imposée par un système sociopolitique à l'ensemble de la population au profit d'un tout petit nombre.
Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est fait. D'ailleurs, est-ce que, enfin, moi j'ai le sentiment en vous ayant presque tous lu, voir dans vos romans des systèmes globaux, des systèmes politiques, des systèmes gouvernementaux qui sont justement les premiers à être punis en violence, avant même les héros, avant même les personnages. J'ai des personnages qui essayent de sortir de la violence.
C'est pas seulement ça. La distinction entre hommes et système me gêne un petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le système est une grande machine aveugle qui est totalement désincarnée et qui marche toute seule. Non, c'est-à-dire que le système, c'est juste des gens comme vous et moi qui sont installés sur un siège qui est un peu plus haut que le nôtre et qui fait ce qu'on pourrait faire finalement de leur propre. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment tendance à dire oui, c'est pas moi, c'est le système, c'est pas moi, c'est l'État. Et en fait, non, l'État, finalement, c'est ce qui m'intéresse finalement, en fait, de développer des systèmes, soit religieux, soit politiques, dans des bouquins. C'est que c'est juste des jeux d'ambition, en fait. C'est juste des jeux d'ambition totalement humains et pas du tout qui ne dépassent personne finalement. Finalement tout le temps aujourd'hui.
Est-ce que dans vos univers, à Brentwix, c'est les gens qui font les systèmes violents ou c'est les systèmes violents qui font les gens?
Oui.
Nice try.
It's certainly both. I would certainly differentiate violence from poverty, but they do both spring from a common source, and that is others have more, and I want that. And so those abuses of power, those places where we use our cerebral cortex to serve our reptilian brain, those are abuses of power. And that's something that people do on both micro and macro levels. It's tragic and it's wrong. But as long as bad men want power, we'll get systems that are flawed.
Alors, je pense que ça va dans les deux sens. Par contre, je ferai une différence entre la violence et la pauvreté. Ceci dit, tout ça a la même origine. C'est que
sujet de Pâques. L'histoire humaine n'est que l'histoire de l'asservissement qui fait des hommes aussi bien oppresseurs qu'opprimés. Le simple jouet des instruments de domination qu'ils ont fabriqués eux-mêmes et ravale ainsi l'humanité vivante à être la chose de choses inertes. Ce qui est important, c'est aussi bien oppresseurs qu'opprimés. C'est-à-dire que nous sommes dans un système que nous n'avons, je suis bien d'accord, personne n'a décidé de le créer, mais il est comme ça. Et il n'y a pas d'un côté les méchants, les riches, etc. Et nous nous sommes foutus tous ensemble dans la merde. Et nous y restons inconsciemment ou volontairement.
Et avant d'arriver à l'état où nous serons tous robots, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ça, c'est une question qui dépasse un petit peu le cadre de l'imaginaire. Comment vous, vos héros, font pour s'en sortir?
Ils s'en sortent.
Enfin, comment ils font pour essayer, en tout cas?
Ils ont la volonté. Donc, à partir de là, à partir du moment où ils décident de se sortir de cette violence, de cette noirceur, il leur suffit simplement de s'ouvrir aux gens autour d'eux et de s'ouvrir au monde et de décider que la vie peut être belle. Ça emmène un peu de soleil dans leur vie, ça leur donne envie de partager ce point de vue qui peut-être sera partagé par d'autres, etc. Et c'est un peu leur espoir justement de vie meilleure pour eux, pour leurs proches et pourquoi pas pour le monde, mais ça je les plains parce qu'ils ont beaucoup d'espoir du coup. Mais
potentielle déception.
Oui, oui. Mais voilà, enfin, pour eux, tout simplement, c'est faut essayer, faut le faire. Voilà, faut être positif et essayer que peut-être que ça aura un effet domino et que des gens qui les auront vus ne pas céder facilement à la violence se diront que ah ben ça peut être une solution et répercuteront ça autour d'eux.
Gabriel, dans le puits des mémoires, qu'est-ce qui est la motivation principale de vos trois personnages pour...
Les trois personnages à la base se réveillent sans mémoire et donc veulent retrouver la mémoire. Ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils ne vont pas retrouver la mémoire, mais qu'ils vont petit à petit comprendre qui ils sont. Et quelqu'un qui a perdu la mémoire, qui se réveille à partir de rien, donc qui n'a plus qu'un petit système de pensée ou de valeur qui est à lui, mais plus du tout d'informations sur ce qu'il était, va se construire quelque chose un petit peu à la carte. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, je me réveille en tant qu'enveloppide et je me fais. Qu'est-ce que je suis là tout de suite à partir de maintenant? Et à un moment ou à un autre, au deuxième tome, très exactement, ces gens-là vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas du tout ce qu'ils ont construit. Et donc là, il y a une espèce d'antagonisme un peu douloureux entre leur personnalité réelle, qui ne remonte pas tellement la surface, mais ils y sont confrontés, et ce qu'ils se sont construits, en fait. Je crains que la violence l'emporte au bout du compte. J'en ai un peu peur. En même temps, je ne suis pas du tout persuadé qu'on puisse éradiquer la violence ou qu'on veuille éradiquer la violence. Je pense que le seul côté consolatoire, en fait, qu'on puisse attendre, c'est quelque chose de très individuel. C'est-à-dire, j'aime ma femme et avec ma femme, on fait une sorte de microcosme tout doux, c'est merveilleux. J'ai trois potes, je les aime tendrement. J'ai deux vassaux, je ne sais pas quoi, je les trouve cool.
Mais dans le groupe de transpartinage et de
sassos. Oui, c'est un peu ça, mais l'un dans l'autre, au-delà de ça, dès qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus. Disons, la dimension un petit peu supérieure, c'est fini. On ressent dans la violence parce qu'on ne peut pas faire ça. Enfin, j'aimerais bien qu'on fasse ça, mais on ne peut pas.
Mais est-ce que, pour aller dans un petit peu dans le sens de ce que disait Jean-Michel, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et on va essayer de finir sur cet aspect un peu plus positif, parce que sinon, je pense que tout le monde va aller se taper dessus à la sortie pour obtenir un
passage,
prendre la femme de son voisin, enfin voilà quoi.
Très bien.
N'hésitez pas à prendre le mec de votre voisine aussi, n'hésitez pas à la violence.
it's totally wrong. Like, war has solved lots of things. Certainly in the United States, we wouldn't have ended slavery without war, and so on and so forth. There are legitimate uses of power. Not all uses of power are abuses. So we can hope that we as peoples become wise in is this war worth going to do, knowing what it means. And that, I think, is part of what authors can do when we write about violence, when we talk about it honestly, and we say, this is what happens to people who do violence. This is what happens to the soldier who has to kill somebody. He pays a price, and obviously the people that he kills and their families, they all pay a price. There are times when you need to loose the dogs of war, but we must be very, very careful and careful in who we vote for and careful in what we consume and in what we watch and read to make sure that we only use this at legitimate times.
Expression en anglais qui est que la guerre n'a jamais résolu aucun problème. C'est complètement faux. Déjà, sans la guerre, on n'aurait pas pu mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. Donc, parfois, le pouvoir, on se sert du pouvoir de façon légitime. Et je pense qu'effectivement, du coup, on peut garder l'espoir que les gens deviendront assez sages pour savoir quand on peut se servir de la guerre pour quelque chose de vraiment utile. Je pense qu'effectivement, en tant qu'écrivain, ce qu'on fait, on essaie de parler de la violence avec honnêteté, de montrer ce qui se passe quand un soldat n'a pas d'autre choix que de tuer quelqu'un. Il en paye le prix. La personne qui est morte avait aussi une famille. On voit également les conséquences pour la famille et les gens qui l'aimaient. Donc, il est parfois nécessaire de faire la guerre, mais je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce pour qui on vote, à ce qu'on consomme, à ce qu'on regarde et ce qu'on lit, afin de vraiment apprendre à réfléchir et à se servir vraiment du pouvoir et de la guerre d'une façon uniquement légitime, que quand vraiment ça vaut le coup. Oui.
Juste un petit mot là-dessus, la violence est toujours légitime, et c'est le drame de la violence. Parce que finalement, personne n'utilise la violence en se disant que ce n'est pas bien ce qu'il fait, ou encore à la limite, ça peut être une réjouissance. Le pire des criminels, le pire des nazis, etc., est persuadé de faire le bien. C'est justement la notion du bien et du mal. Chacun se la renvoie comme une balle de ping-pong, et comme tout le monde est persuadé que cette violence est justifiée ou légitime, voilà, en l'occurrence, l'esclavage, c'est un joli exemple, mais la plupart des guerres, bah, c'est ce que disaient des proches. Des proches disaient l'ennemi est bête parce qu'il croit que c'est lui l'ennemi, que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. C'est pas un des plus témoins.
Ok. Bon, alors, l'idée, c'est lisez tous ces récits et essayez de ne pas devenir ni trop violent, ni trop abominable. Et puis, revenez l'année prochaine pour qu'on en parle et qu'on voit si on a progressé ou si on s'est enfoncé.